C is for...
Cauliflower.
Confusion. Creation.
Pickle. K is for...
Kitten.
Cam.
C, wait. Fianrupsik. U, unbearable.
U is for underground.
Oh, yeah.
Umbrella.
T.
Trite.
Tremendous.
Torment.
Tire.
C, K.
I can't think of a U one. T.
T.
F is for famous.
Fun. Fumble. M is for... Montreal.
Ici Canada, vous écoutez Lève Bouton avec Nathalie Dupalma sur les ondes de CKUT 90.3 FM.
Bonsoir et merci d'être à l'écoute. Il y a 16 ans, le 23 novembre 2006, une loi a été adoptée à l'Assemblée nationale pour que le mois de février devienne le mois de l'histoire des Noirs au Québec, afin de souligner la part de ces communautés à la société québécoise. Et nous, on tenait à souligner le travail exceptionnel des membres de la communauté noire LGBTQ+. Nous avons donc invité l'artiste-peintre Kezna Daz et Massimadi Montréal, qui organise sa 14e édition du Festival des films et des arts LGBTQIA+ Afro, qui se tiendra du 11 février au 11 mars 2022. Nous commençons tout de suite avec Soyane Diallo, responsable du développement à la Fondation ainsi qu'au Festival Massimadi. Bonsoir Soyane et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir, merci de nous avoir invités.
Pour débuter, j'aimerais que tu nous parles de ton rôle et de l'évolution de ton implication au sein de Massimadi.
Oui, donc moi j'ai été en fait bénévole pendant 3 ans au Festival Massimadi avant de travailler ici. Donc l'année où je suis arrivée au Canada, en fait, j'ai commencé à être bénévole pour le festival. Donc la première année, j'étais bénévole vraiment sur le festival en février. Et ensuite, la deuxième année, j'ai intégré le comité de sélection de films. Donc ça, c'était absolument extraordinaire. Là, c'était vraiment visionner les films et participer en fait au comité pour voir quels films on allait présenter pendant le festival. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et depuis mai 2021, donc je suis responsable de développement de la Fondation. Donc je m'assure du développement à la fois des publics, qui passe beaucoup par le développement avec des partenariats, avec des organismes communautaires, etc. Et le développement de l'organisme d'un point de vue structurel et financier. Donc, de financer tout simplement le festival et la fondation.
Et tu es arrivée d'où quand tu es arrivée au Canada?
Oui, ben alors moi, je suis française, mais avant ça, je vivais, disons, les 2 années avant d'arriver au Canada, j'étais à Cuba. Voilà, j'ai beaucoup bougé. J'ai vécu dans beaucoup de... C'est ça. J'ai vécu dans beaucoup de pays, mais les années, on va dire, juste avant d'arriver au Canada, j'étais à Cuba. Voilà.
J'ai vu que tu avais aussi travaillé avec le Gris Montréal.
Oui, tout à fait. J'ai travaillé pendant 2 ans avec le Gris, ouais, juste avant en fait, de travailler à Massimadi.
Donc, tu t'es impliquée rapidement dans la communauté LGBT.
Oui, finalement, c'est ça.
Massimadi est actif tout au long de l'année, pas seulement en février. J'ai remarqué que vous avez aussi une série d'ateliers pratiques pour les personnes LGBTQIA+ noires. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a qui s'adressent spécifiquement aux femmes noires et c'est quel genre d'atelier?
Oui, alors pour revenir un peu sur les ateliers qu'on donne, donc c'est sûr qu'on essaye d'être actif et active toute l'année. Donc par exemple, cette année, on propose des ateliers d'art-thérapie, donc avec une session en anglais et une session en français. Donc ces ateliers sont réservés à des personnes noires et queer. Mais pour les activités spécifiquement qui s'adressent aux femmes noires, l'année dernière, on a présenté pour la première fois un speed dating pour femmes et personnes non-binaires noires qui s'est déroulé en ligne. Ça a été vraiment un grand succès. On est très contents de ce que ça a donné. Et c'était vraiment un espace très nécessaire, en fait, dans nos communautés, un espace de rencontre, d'échange pour des femmes et des personnes non-binaires. Pas forcément un speed dating romantique, mais aussi des rencontres en matière amicale, des rencontres politiques, etc. Donc, on s'est rendu compte que c'était vraiment un espace nécessaire et ça a eu beaucoup de succès parce qu'on a eu beaucoup de participantes. Donc cette année, on a voulu le refaire en présent cette fois, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'on a dû passer toutes nos activités au virtuel. Donc on va le proposer dans les prochains mois, dès qu'on le pourra. On va proposer ce speed dating. Donc restez à l'affût, ça va arriver bientôt, dès qu'on pourra assurer cette activité de façon sécuritaire pour tous.
De quelle façon ça s'est fait en ligne? Est-ce que c'était sur Zoom?
Oui, alors on avait utilisé une autre application. Dans le fond, c'était intéressant parce que chaque personne avait une espèce de petite bulle et on pouvait faire rencontrer les bulles entre elles. Ensuite, quand on parlait avec une personne, on pouvait bloquer la la conversation avec cette personne. Dans ce cas-là, il n'y avait personne d'autre qui pouvait rentrer dans cette bulle. Et ça a créé vraiment des espaces de rencontres, mais aussi de groupes. Parce que finalement, à la fin du speed dating, il y avait tout le monde parlait ensemble. C'était vraiment comme un groupe qui se rencontre finalement. Donc c'est intéressant aussi parce qu'en ligne, ça enlève aussi le one-to-one, le forcément deux personnes. Ça peut être comme un petit peu groupe. C'est vraiment intéressant.
Est-ce qu'il y a d'autres activités dont tu aimerais nous parler qui vont se dérouler dans les prochains mois?
Oui, ben, dans le fond, nous, on a notre festival qui arrive là le 11 février, donc 100% virtuel, parce qu'on a dû modifier un peu nos activités. Mais on n'a pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas annulé nos activités qui étaient prévues en présence. On espère les reporter dès qu'on le pourra. Et notamment, quelque chose qu'on essaye de développer cette année, c'est des activités jeunesse, donc des activités avec les enfants, les adolescents, adolescentes. Donc, on espère très vite pouvoir programmer ces activités. Donc, il y avait le speed dating aussi, qui est un peu en pause. Un micro ouvert aussi pour personnes noires et queer. Donc, tout ça, c'est des activités qui sont prêtes, en fait, mais on attend de pouvoir les réaliser.
Le micro ouvert, est-ce que c'est pour des chansons, par exemple?
Oui, alors c'est micro ouvert. Donc, si la personne veut chanter, oui. L'idée, c'est d'avoir un espace d'expression artistique pour des personnes noires et queer. C'est surtout ça qui est important pour nous, de pouvoir offrir cet espace. Et c'est-à-dire que nous, on offre cet espace généralement à des artistes. Et là, c'est de pouvoir l'offrir aussi à toute personne qui voudrait s'exprimer, qui voudrait partager quelque chose, etc. C'est quelque chose qu'on a déjà fait à ma vie. Mais là, on veut faire ça un peu plus grand, un peu avec un peu plus d'ampleur. Et sinon, dans les activités, je voudrais juste mentionner aussi que pour la première fois cette année, on a fait un festival en été qui s'appelait Ma vie en russe. Et qui était vraiment un grand succès aussi. Donc, ça a changé beaucoup parce que c'était l'été, c'était dans un parc, c'était à l'extérieur, etc.
Oui, c'était au métro Lionel Groulx, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement, c'est ça. C'est au parc côté du canal de la Chine. Donc, ça nous a permis vraiment de sensibiliser beaucoup de personnes qui passaient dans le parc. Il y a beaucoup de cyclistes, de piétons, piétonnes. Donc, ça a été vraiment très, très riche. On a eu des performances des arts de la scène. On a installé des cabines de visionnement. D'ailleurs, c'est Chris Nadal qui a fait le design des cabines. Et à l'intérieur des cabines de visionnement, il y avait des courts-métrages brésiliens qui étaient diffusés. Donc, c'était vraiment extraordinaire.
C'est une belle idée de sortir un peu du village aussi, puis d'aller dans des endroits qui ne sont pas spécifiquement LGBTQ+.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Surtout qu'on essaye, nous, de vraiment toucher les communautés noires. Donc, on essaye aussi de sortir des quartiers, on va dire, qui sont peut-être plus queer, mais dans lesquels il y a moins de personnes noires. Donc, on essaye justement d'aller de plus en plus de quartiers dans Montréal, d'être présent vraiment dans plusieurs quartiers, etc.
Il y a une programmation très intéressante encore cette année au Festival Massimadi. J'aimerais ça que tu nous parles de la programmation de films.
Oui. Donc, cette année, on a regroupé les films autour de différentes thématiques. Quand vous allez aller sur le site pour visionner des films, vous pourrez directement cliquer sur une thématique et accéder à tous les films autour de cette thématique. Et donc, s'il y a une thématique que vraiment je recommande aux femmes et aux personnes non binaires, mais en tout cas qui ont un intérêt pour ce cinéma, c'est la thématique qui s'intitule Affirmation corporelle et qui regroupe en fait des courts-métrages canadiens à 100% faits par des réalisatrices canadiennes. Ce sont des films autour de l'affirmation corporelle, donc avec une approche quand même assez féministe sur l'acceptation de soi, contre les normes physiques, etc. Autour de l'amour, des réalités afro-queer, etc. Donc c'est un bijou là, tous les films sont des bijoux, mais vraiment je recommande cette thématique qui regroupe en fait 5 films. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'accent que je mettrais. Et je parlerai aussi de, on a un court-métrage donc qui s'appelle « Dantex sur X » de Jo Augustine, qui est donc une artiste qui participe au festival Massimadi sous plusieurs formes. Et ce film, quand même, je recommande vraiment parce que c'est vraiment un contexte de relations entre femmes au Canada en situation de la pandémie aussi. Donc c'était très moderne, très contemporain et c'est vraiment dans le contexte, dans la vie qu'on vit tous les jours. C'est vraiment très intéressant. Et ensuite, il y a le court-métrage donc, qui s'appelle Nour and Layla de la réalisatrice Fazia Mirza. Une très belle histoire d'amour entre deux femmes musulmanes. C'est vraiment, je recommande, voilà.
Pour vous, le mois de l'histoire des Noirs, est-ce que c'est un moment qui est plus propice aux célébrations ou aux revendications?
Je vais vous répondre deux fois. Je vais répondre pour Massimadi et après, je vais donner mon opinion un peu plus personnelle.
Avec plaisir.
Mais je suis sûre que pour les deux, c'est les deux. Là. C'est comme s'il de pencher pour l'un ou pour l'autre. Pourquoi les revendications? Parce que c'est sûr que le mois de l'histoire des Noirs offre quand même une visibilité, offre un espace dans lequel on est entendu, on est écouté, on est vu. Les artistes sont écoutés, sont entendus. Donc c'est sûr que ça permet de revendiquer des choses, ça permet de faire des points sur ce qui marche, qui ne marche pas, etc. Donc c'est sûr que c'est un espace de revendication. Et d'ailleurs, tous les ans au festival, on présente une thématique globale. Par exemple, l'année dernière, on était sur le thème de la résistance. Et cette année, on est sur le thème de la guérison et l'extase. Donc, ça montre bien qu'on est à la fois dans la revendication et dans les célébrations. Les célébrations, pourquoi à Massimazi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une programmation qui traite les réalités des personnes afro-queer. Mais c'est-à-dire que tout ne tourne pas autour du racisme et des discriminations envers les personnes queer. Comme c'est un aspect de nos vies, donc c'est un aspect qu'on montre, c'est un aspect qui doit être abordé et qui doit être traité, mais c'est pas la seule chose qui forge nos identités. Et ça, c'est important parce que à Massimazi, voilà, on essaye de montrer aussi, de changer un peu la représentation des personnes afro-queer et de montrer, voilà, des histoires autour de l'art, autour des spiritualités, autour de l'amour, autour des joies, des résistances. Donc, c'est important aussi de célébrer qui on est et de représenter les identités multiples à l'intérieur de nos communautés. Donc, par exemple, moi, avec mon expérience au sein du comité de célébration, j'ai vraiment ressenti ça, cet aspect de célébration, parce que justement, au moment où je visionnais, par exemple, beaucoup de films qu'on visionne quand même, et je me suis rendu compte que le film qui me touchait vraiment, c'était, bon là, c'est vraiment personnel, hein, c'est vraiment mon expérience, mais le film qui me touchait le plus, c'est vraiment les films qui me parlaient, c'est-à-dire dans lesquels je me reconnaissais, dans lesquels je reconnaissais mes proches, ma famille, mon entourage, et qui me faisait du bien, en fait. Moi, j'aime pas les films qui font vivre des émotions qui sont pas forcément basées sur des traumas, hein, mais d'avoir des représentations positives avec des personnes aussi qui vont bien, des personnes qui s'aiment, qui partagent, qui célèbrent qui elles sont. Donc, pour moi, je dirais que la célébration est très, très importante à la fois dans le cinéma, mais aussi, on va dire, dans la représentation des réalités afro-queer.
Massimazi est un festival qui a imposé en devenant une référence culturelle et communautaire. Ça fait quand même 14 ans que ça existe.
Oui.
De quelle façon le festival permet de faire bouger les choses? On en parlait un peu tantôt avec les activités que vous faites en dehors de la sphère queer.
Oui, donc là-dessus, c'est sûr que la mission de Massimazi, elle est articulée autour de l'art et de la culture. Hein, nous, ce qu'on fait toute l'année, c'est vraiment de promouvoir, de diffuser des arts afro-queer ou qui abordent les réalités afro-queer. Donc, par exemple, si on prend le cinéma, c'est vraiment par les histoires, c'est vraiment par la narration qu'on va représenter des identités qui sont, on va dire, un peu plus marginalisées dans la société ou qui sont sous-représentées. C'est quelque chose quand même qui revient assez. Donc, en quoi Massimazi permet de faire bouger les choses? Tout simplement en offrant un espace où on peut être représenté, être vu, être entendu. Aussi un espace d'expression pour les artistes. Par exemple, nous, on essaye de vraiment soutenir les artistes donc afro-queer, que ce soit des artistes montréalais, canadiens, canadiennes ou d'autres pays. Mais on essaye aussi de donner cet espace d'expression, de création pour les artistes, pour un peu leur permettre d'avoir une expérience professionnelle et d'être entendu, d'être connu du public pour après, on espère avoir d'autres expériences dans les secteurs culturels, professionnels par exemple. Ce qui est important aussi, et ce qui permet de faire bouger les choses, je pense, c'est aussi de montrer des identités multiples. C'est-à-dire, on ne parle pas d'une seule communauté afro-queer, on parle des communautés afro-queer. Il y a des identités qui sont très différentes, des réalités qui sont très différentes. Et justement, avec un festival de cinéma, avec des films qui proviennent de plein de communautés, de plein de pays, dans plusieurs langues, ça permet aussi de montrer qu'on est divers et qu'on n'est pas en train de parler d'une chose unie seulement pendant le mois de février. Vous voyez, c'est comme aller au-delà, c'est vraiment montrer nos réalités tout au long de l'année et montrer nos identités qui sont diverses et encore une fois, qui ne sont pas seulement basées sur des traumas, sur le racisme, mais qui vont au-delà du racisme et qui sont autour de nos histoires, de notre amour, notre spiritualité, etc.
Vous serez complètement en virtuel cette année. Quel est l'endroit pour avoir accès aux liens, pour écouter les films, par exemple?
Oui, les films seront visibles depuis le site internet, donc massimazi.ca, tout simplement. Donc, le festival va commencer le 11 février et les films seront accessibles jusqu'au 11 mars, donc c'est un mois. Vous pouvez y accéder gratuitement pour voir les films. Vous pouvez aussi faire une contribution volontaire, si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Et en virtuel, là, il n'y aura pas d'autres activités, donc du 11 février au 11 mars. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook Massimazi, sur la page Instagram Massimazi, voilà.
Génial, on va inviter les gens donc à aller participer au festival du 11 février au 11 mars prochain. Un grand merci, Soyane Diallo.
Merci.
C'est génial tout le travail que vous faites avec Massimazi, bravo.
Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui.
C'est un grand plaisir, merci.
À bientôt, merci
à
beaucoup.
À bientôt, bye.
Bye bye.
On s'en va en musique avec la voix extraordinaire de Nina Simone, qui était également militante pour les droits civiques aux États-Unis. On revient avec l'artiste Kesna Daz.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
C'est un grand plaisir de recevoir Kezna Daz, aussi connue sous le nom de Teen Adult, artiste peintre et illustratrice exceptionnelle et d'une grande sensibilité. Elle a entre autres créé la magnifique illustration de l'affiche officielle de la 14e édition du festival Massimadi. Bonsoir Kezna, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Allô, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis contente d'être là.
Tu es une artiste montréalaise d'origine haïtienne qui pratique professionnellement depuis quelques années déjà. Ce que j'ai vu de ton travail est magnifique, tu as une vision très engagée. Quels sont les thèmes qui t'inspirent?
Merci beaucoup. Je dirais que les thèmes qui m'inspirent le plus sont les valeurs qui me sont les plus importantes. Donc, l'antiracisme, premièrement, le féminisme, l'acceptation de son corps, l'acceptation de ses émotions, la vulnérabilité, puis... c'est pas mal ça.
Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que tu as toujours dessiné?
Oui, mais j'ai toujours eu un intérêt pour l'art depuis que je suis jeune. J'essaie beaucoup. Quand j'étais au secondaire, j'essayais d'avoir le plus de cours d'art possible. Tu sais qu'on peut choisir l'option, puis ben, tu es déjà dans une genre de formation. Donc là, tu as encore plus de cours d'art. C'est vraiment le fait. Il y a une session, j'en avais 4 par semaine. Sinon, après ça, au cégep, j'ai étudié en art pendant un an. J'ai pas trop aimé ça, donc j'ai changé pour un programme plus axé sur la politique internationale. Même chose à l'université, je suis allée à Concordia en sciences politiques et en droits humains.
Wow.
Puis j'ai lâché. Donc, je pense qu'il y a quand même des liens à faire à mon art. Même si j'ai pas terminé mon bac, je pense qu'aucune connaissance est perdue et que ça serait sans à travers mon art.
Oui, absolument. Puis les personnages que tu peins sont souvent nus. C'est d'ailleurs une de tes œuvres qui a été choisie pour réaliser l'affiche de l'exposition « Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle » qui a été présentée au Musée national des beaux-arts du Québec en 2021. Mmh. À quel moment est-ce que tu as décidé de ne pas habiller tes personnages et pourquoi?
Je pense que ça fait quelques années déjà que je dessine des personnages nus. Puis je pense que au début, je faisais ça plus de façon enfantine un peu. Mais maintenant, je pense que c'est vraiment parce que ben, ça lie avec mes valeurs d'acceptation de son corps aussi, puis d'être proche de ses émotions, puis de la vulnérabilité. Puis je pense qu'on n'est jamais plus vulnérable que quand on est nu, puis que ça parle beaucoup. Puis je pense que c'est important aussi de montrer des corps qui s'éloignent des standards de beauté qui sont toujours présentés. Donc, dans le fond, en montrant mes personnages nus, ça me donne l'occasion de leur mettre du poil ou de faire des personnages plus corpulents que ce qu'on voit d'habitude.
C'est très beau la façon que tu le fais.
Merci.
L'art et le militantisme semblent indissociables pour toi. Tu en parlais un peu tantôt. Est-ce que c'est important pour toi de t'impliquer aussi au sein de la communauté LGBTQ+?
Oui, oui, absolument. C'est sûr qu'au cours des années, j'ai eu l'occasion de m'allier avec des organismes directement puis de créer de l'art qui s'enligne avec les valeurs que l'organisme développe. Mais sinon, oui, c'est super important tout autant la lutte LGBT+, que les valeurs intersectionnelles que j'ai. Donc, je pense que tout en créant de la façon dont je le fais, c'est une forme de militantisme pour moi.
Puis c'est pas la première fois que tu participes à des événements de Massimadi. Il y en a eu d'autres avant.
Oui, mais dans le fond, j'ai fait l'illustration pour leur 14e édition de film cette année.
Oui.
Mais cet été, j'ai eu l'occasion de faire la direction artistique de leur festival qui a eu lieu dans un parc. Donc, dans le fond, on a fait des cabines de visionnement, 3 cabines différentes. Puis j'ai comme fait le design pour ces cabines-là. Des grandes cabines en bois avec des visages, des cheveux faits avec de la tire et tout. C'était vraiment plaisant.
Oh, génial. Ça a aussi illustré un livre pour enfants qui a pour titre Dear Black Girls, écrit par Shanice Nicole. Est-ce que tu as aimé l'expérience et qu'est-ce que ça signifie pour toi?
J'ai adoré l'expérience. C'est vraiment génial de travailler avec Shanice. Une très grande ouverture aussi, belle collaboration. Puis ce que ça veut dire pour moi, ce livre pour enfants-là, c'est toutes les valeurs qui m'importent dans un livre. Et puis je pense qu'en grandissant, autant moi que plein d'autres personnes noires, plein d'autres... de petites filles noires ont manqué de représentation. Puis, dans le fond, c'est pour ça que ce livre-là a été tellement important pour moi de l'illustrer, parce que j'ai l'impression d'offrir cette représentation-là. Une représentation autant aux jeunes filles ou aux jeunes personnes noires qui vont lire, mais autant comme de façon, dans un aspect de guérison pour ma propre personne qui est capable de comme, créer un livre que j'aurais aimé avoir en étant plus jeune.
Tu fais vraiment toutes sortes de projets vraiment cool. On peut même trouver tes créations sur des canettes de bière. Comment c'est arrivé, ça?
un peu comme toutes mes collaborations, honnêtement, je suis quand même chanceuse. Ça commence par un courriel, puis je suis comme, wow, ça me tombe vraiment de faire ça. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des illustrations plus pour des étiquettes et tout. Puis je suis quand même fan de bière, de microbrasserie et tout. Donc, pour 2 projets que j'ai reçus cette année, j'en ai fait 4. L'année dernière, en fait, j'ai fait 4 illustrations de canettes de bière. Puis il y en a que j'avais vraiment envie de travailler avec Dieu du ciel, donc je l'ai écrit, mais il y en a d'autres qui vont juste écrire par courriel. Puis j'ai comme, oui, ça me tente. Donc, voilà. Très belle expérience.
Est-ce que c'est différent pour toi, entre le livre pour enfants, les canettes de bière ou une affiche? Est-ce que c'est un travail différent ou finalement ça revient au même?
Ça revient au même dans l'aspect technique. Donc moi, je travaille sur mon iPad puis ensuite sur Illustrator sur mon ordinateur. Donc pour ça, c'est toujours le même procédé. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a des éléments que je ne mettrais pas nécessairement dans un livre pour enfants qui vont se retrouver sur la canette ou vice-versa. Puis sinon... Non, le processus est quand même très similaire.
Dans le contexte du mois de l'histoire des Noirs, j'aimerais que tu nous parles des combats qui restent à mener, mais aussi des petites victoires que tu as pu constater.
Tous les combats de la lutte antiraciste sont toujours à mener. Dans le sens que je pense que c'est la lutte de toute une vie. C'est sûr que la situation est mieux qu'avant, mais il y a toujours les mêmes embûches, les mêmes luttes qui persistent et tout. Sinon, pour ce qui est des petites victoires, je pense qu'il y a un plus grand intérêt pour la lecture par rapport à comment être un meilleur allié, comment se former, qu'est-ce que c'est le racisme systémique et tout. C'est des mots qui reviennent plus souvent, donc c'est sûr que peu importe l'opinion d'une personne, c'est là, donc la personne lit ces choses-là ou on entend parler. Donc je pense que c'est déjà une petite victoire, que ça soit comme là à l'extérieur dans le monde, puis que ça soit de l'information accessible. Puis si une personne a envie de s'informer, ça, c'est sûr que ça fait avancer la cause. Donc ça, c'est une bonne victoire, ce que j'ai.
Oui, parce que être une femme queer, noire, ça doit comporter quand même des réalités dont on n'est pas toujours conscient.
Mm-hmm. Oui, absolument. C'est 3 catégories de minorités visibles. Oui. Donc, c'est sûr que ça comporte ces défis, mais il y a une beauté là-dedans aussi, parce qu'après ça, on peut se retrouver dans une communauté qui fait en sorte qu'on se sent vu, entendu, écouté. Donc, c'est une très grande beauté comme de travailler avec ma maladie. Ça fait en sorte qu'en t'engageant avec des gens qui te ressemblent, tu te sens déjà en sécurité, tu sais que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, le fait que ça donne l'occasion à des espaces comme ça de se créer, c'est un boom, c'est un réconfort.
Oui, c'est un sentiment d'appartenance aussi, probablement.
Mm-hmm. Oui, absolument.
En terminant, est-ce que tu as en tête un projet que tu rêves de faire?
J'en ai beaucoup, mais je pense que mon plus grand projet de vie, ça c'est pour dans peut-être 10, 15, 20 ans, ce serait d'avoir un espace ouvert au public où tout le monde peut venir créer, peu importe le médium, peu importe le... J'ai pas en anglais, mais désolé, peu importe le background, comme juste un endroit où les gens peuvent se sentir en sécurité, puis peuvent créer ensemble, échanger, puis juste être présent, pas nécessairement en tant que mentor ou quoi que ce soit, mais juste de me retrouver dans un espace comme ça avec des gens qui ont des valeurs similaires aux miennes, puis juste de créer du beau.
Wow, c'est un beau rêve. Tu imprimes aussi tes œuvres sur des vêtements. On peut en acheter sur hellotinadulte.com.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut suivre tes projets?
Oui, absolument. Et donc, dans le fond, sur mon Instagram, je poste quand même vraiment beaucoup... les projets sur lesquels je travaille ou sur lesquels je vais travailler. Sinon, pour ce qui est de comme retrouver mes œuvres, dans quelques semaines, il va être possible de voir mes peintures à l'Institut d'art national. C'est une nouvelle galerie dans le Vieux-Port. Sinon, mes affiches, chandails et autres items, je les vends dans une boutique sur Saint-Laurent et Duluth qui s'appelle Citizen Vintage. C'est une boutique qui a beaucoup de produits d'artistes, mais aussi une collection de vêtements vintage, recyclés et tout, puis c'est vraiment génial.
Oui, mais hein, sur Instagram, ton nom, c'est Tinadulte.
Oui, exactement, avec deux T à la fin.
Tinadulte, ça vient d'où?
Ça vient un peu de comme, encore là, encore très proche de mes émotions, de comme vouloir trouver un nom qui correspond vraiment à la genre de vulnérabilité qu'on a, mais qu'en grandissant un peu, on se retrouve dans une drôle de phase où c'est comme, oh, est-ce que j'ai le droit de me sentir comme ça? Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Puis toutes les émotions sont que ça rappelle un peu les crises d'adolescence qu'on avait, mais c'est un peu étrange parce qu'on est supposé, entre guillemets, des adultes. Donc, ça vient de le nom d'artiste.
Avant l'entrevue, je t'ai proposé de me suggérer une chanson et tu m'as fait découvrir Solange, que je ne connaissais pas, qui est la sœur de Beyoncé.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu aimes de cette artiste?
Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle parle d'enjeux antiracistes dans ses chansons. Puis c'est une femme qui semble très, très assumée, très ouverte aussi, qui a des valeurs de communauté qui me ressemblent. Puis aussi, j'aime juste le son de sa voix puis de la musique de ses chansons. Donc... des fois, quand je crée même, j'en écoute parce que ça me fait du bien puis ça m'inspire.
Ah, mais c'est le fun de savoir que tu crées sur cette musique-là. On va écouter Cranes in the Sky de Solange.
Yeah, it's like crazy. to run it away. Thought then my head be feeling clearer. I traveled 70 states. Thought moving around make me feel better. I tried to let go my lover. Thought if I was alone, then maybe I could recover. To write it away, or cry it away.
Don't you cry, babe.
Nous sommes de retour avec Kez Nadals, artiste, peintre et illustratrice. Tu as fait un très beau portrait de Rebecca McKinnon, ancienne VJ à Musique Plus, qui anime maintenant l'émission On dira ce qu'on voudra à Radio-Canada. Elle utilise ton portrait comme photo de profil de l'émission. Est-ce que c'est une demande qu'elle t'a fait ou c'est ton initiative?
En fait, c'est une demande. À chaque année, ils demandent à l'illustrateur de faire un portrait de Rebecca McKinnon, puis cette année, j'ai eu la chance que ce soit moi. Contente.
Tantôt, tu disais que tu dessines avec Illustrator puis ton iPad, mais est-ce que ça t'arrive de dessiner aussi avec des pinceaux et des crayons?
Ah oui, absolument. Donc, dans le fond, je fais vraiment beaucoup de peinture acrylique sur toile, vraiment classique. Sinon, des fois, je dessine avec des marqueurs sur papier, puis des fois, je le scanne, des fois, je le garde pour moi.
Ah, génial. Les peintures qu'on va voir dans l'exposition dans le Vieux-Montréal dont tu parlais, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que c'est des peintures qui ont été faites justement avec un pinceau?
Oui, donc ma part, c'est des peintures qui ont été faites dans la dernière année avec de l'acrylique sur toile. Puis je pense qu'il y en a 8, si je me trompe pas, 7 ou 8.
Est-ce que tu as un endroit préféré pour créer?
J'aime vraiment beaucoup juste créer à la maison. C'est tellement beaucoup de choses à organiser quand c'est à l'extérieur. J'ai aussi un studio, mais... Je préfère parce que des fois, je crée des verres un peu atypiques, comme 2 h ou 3 h du matin. Donc, je pense que c'est mieux que ce soit chez moi. J'ai converti une des pièces en studio.
Est-ce que tu as un autre médium avec lequel tu t'exprimes?
Des fois, je fais du découpage, mais vraiment juste pour moi, pour le fun. Comme je suis pas très bonne, mais j'aime bien faire ça. Sinon, la peinture et le dessin, c'est tellement tout ce que je fais.
Merci beaucoup, Kez Nadals, pour cette belle rencontre.
Merci à toi.
On s'en va en musique avec Freedom de Sarah May.
Non, dans la vie, on m'a rien donné. J'ai eu de l'amour plus qu'il n'en fallait. Et du merci, mes repères m'ont évité de perdre la tête. On m'a dit que je devais tout lâcher. Pas connu au port déjà fermé. Que si je vais encore percer, c'est sûrement que mon heure a déjà sonné. Et oui, j'ai fait des sacrifices que l'on ne dit pas. Si elle coule, on ravale nos larmes comme des soldats de poids. Avant le bonheur était simple, 4 tours, un repas. Pourquoi quand le bonheur appelle, on ne répond pas, pas, pas. Aujourd'hui, je vis ma vie, qu'il me juge ou pas. Je saute dans le vide, parachute ou pas. Aujourd'hui, je vis ma vie, forte et vulnérable. Je saute dans le vide, qu'on me rappelle.
rattrape ou pas. Dans les sabliers, mais personne ne veut le rattraper. On promet de ne pas oublier, mais une promesse est sacrée. Hein. Sur mon lit de mort, j'ai pas de regrets. Comme laisser partir l'amour de sa vie, tuer la folie de nos rêves. J'ai la chance de ne pas être seul au monde, et quand la nuit tombe, enfin, j'ai que seul mon cœur me guide chaque jour vers mon destin. Alors pourquoi s'enferme derrière les sourires, se cache de la tristesse. On fait avec ça, avec la passion. Aujourd'hui je vis ma vie, qu'il me juge ou pas. Je saute dans le vide, parachute ou pas. Aujourd'hui je vis ma vie, forte et vulnérable. Je saute dans le vide, qu'on me rattrape ou pas.
Pour son musique avec Aretha Franklin, militante des droits civiques aux côtés de Martin Luther King, femme de combat, diva et porte-parole de tout un peuple, Aretha Franklin est considérée comme la chanteuse afro-américaine la plus influente du 20e siècle. Elle n'a pas seulement été une voix des droits civiques, mais elle a également eu un impact sur le féminisme afro-américain. Elle sera suivie de Jenny Salgado, alias Jekyll de Miss Zion, qui nous chante « Spit White ».
My hair now, and wondering what dress to wear.
Lesbosons sur les ondes de CKUT 96.3 FM. En mars 1939, Billie Holiday a 23 ans. Elle s'est approchée du micro dans un café New York pour chanter sa dernière chanson de la soirée. À sa demande, les serveurs ont cessé de servir et ont éteint les lumières, à l'exception d'un projecteur sur son visage. Et puis elle a chanté doucement de sa voix crue et émue. Les arbres du sud portent un fruit étrange. Du sang sur les feuilles et du sang à la racine. Corps noir se balançant dans la brise du sud. Fruit étrange suspendu au peuplier. Lorsque Holiday a terminé, le projecteur s'est éteint. Lorsque les lumières se sont rallumées, la scène était vide. Elle était partie. Et à sa demande, il n'y a pas eu de rappel. C'est ainsi que Holiday a interprété Strange Fruit, qu'elle chantera avec détermination pendant les 20 prochaines années jusqu'à sa mort prématurée à l'âge de 44 ans. Strange Fruit était à l'origine un poème. Holiday a peut-être popularisé Strange Fruit et en a fait une œuvre d'art, mais c'est un enseignant juif communiste et militant des droits civiques du Bronx, Abel Meeropool, qui l'a écrit d'abord sous forme de poème, puis plus tard sous forme de chanson. Meeropool a été inspiré par une photo de 1930 qui capturait le lynchage de deux hommes noirs dans l'Indiana. L'image viscérale l'a hanté pendant des jours et l'a incité à mettre la plume sur papier. Après avoir publié Strange Fruit dans une publication d'un syndicat d'enseignants, Meeropool l'a composé dans une chanson et l'a transmise à un propriétaire de boîte de nuit qui l'a ensuite présentée à Holiday. La chanson rappelait à Holiday son père. Lorsque Holiday a entendu les paroles, elle en a été profondément émue, non seulement parce qu'elle était noire américaine, mais aussi parce que la chanson lui rappelait son père, décédé à 39 ans, d'une maladie pulmonaire mortelle, après avoir été renvoyé d'un hôpital parce qu'il était noir. En raison des souvenirs douloureux que cela évoquait, Holiday n'aimait pas jouer Strange Fruit, mais elle savait qu'elle devait le faire. Elle disait « Je dois continuer à la chanter, non seulement parce que les gens la demandent, mais parce que 20 ans après la mort de son père, les choses qui l'ont tué se produisaient toujours dans le sud. » On écoute Strange Fruit de Billie Holiday et son orchestre, qui sera suivi de Proud Mary de Tina Turner.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Please.
easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing.
Working for the man
nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice.
One minute
and
sleep.
Rough.
And
but we're going to take the beginning of this song
the
and do it easy.
Big wheel keep
but then we're
going to
do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling.
Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man
every night and day.
And I never lost one minute of sleep.
And I was worrying
about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning.
Rolling,
rolling, yeah.
Rolling,
rolling.
déjà la fin de l'émission. Merci à nos invités, Soyane Diallo et Kez Nadaz. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site massimadi.ca pour participer à la 14e édition du Festival Massimadi en ligne du 11 février au 11 mars prochain. Merci d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous le 21 février à 19h avec l'auteur, compositrice, interprète et DJ Sandy Duperval qui vient passer l'heure avec nous. On se laisse avec Tracy Chapman. À bientôt. Ciao.
Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Oh, while they're standing in welfare lines, crying to those of the armies of salvation, wasting time for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Talking about a revolution.
All right. Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web, ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à info@kumbit.org. KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
to make an appointment for your booster dose against COVID-19. Visit quebec.ca/COVID-vaccine to follow the vaccination sequence plan for your area and book your appointment online. To continue protecting yourself against COVID-19 and its variants, get a booster dose and keep following distancing measures, wearing a mask, and washing your hands. The booster dose, the best way to stay protected longer. A message from the Gouvernement du Québec.
Tune in to CKUT 90.3 FM, Tuesdays, 3 p.m. to 5 p.m., for a special Black History Month edition of the Montreal Sessions. The month kicks off on February 1st with the best in reggae and soca with your hosts, Production Sounds and Soca Head. Week 2, February 8th, Wizzy Moonchaser, host of The Morning Detour, broadcast live from DG Kicks, a sneaker store in NDG. Final 2 weeks, 15th and 22nd, are hosted by Stephen Ziplocks Hennessy, educator, creator,
and part of the Ill Groove Garden team. Don't miss it.
Yes, sir, you already know what it is.
What it is.
Jason Alexander back with Colin Hassel on the drums. Of course, DJ Rossi Ross is THT Entertainment on CKUT 90.3. Doing for the first time the underground sounds. How you feeling, Colin Hassel?
I'm feeling underground right now, man.
Yes, sir.
We got a brand new segment coming to us this week, and we're excited to explore some cool new tunes, some Canadian underground never seen before.